Merci bien, colonel. Pas d'invité à cette conférence de presse, comme vous le constatez, ce qui nous donne beaucoup de temps pour prendre des questions. Nous allons vous demander d'éteindre vos portables, de les mettre sous silencieux, afin de permettre le déroulement de cette seconde phase dans de bonnes conditions. Nous allons commencer par Goma. Goma, deux questions, s'il vous plaît.
Ok, on va commencer par Norbert de RTGB.
Merci pour la parole. Oh, il ne se passe pas des jours sur les lacs Kivu sans que le péché des lacs Kivu ne soit arrêté par la marine rwandaise. Et cette situation perdure. Les autorités locales ont essayé de plaider. Il n'y a pas de succès visiblement. Ma question est de savoir si la MONUSCO ne peut pas mener de la diplomatie pour établir ces péchés dans leur droit. Et la deuxième question, à Kachébéré, la MONUSCO veut déplacer son contingent sud-africain pour Pinga. Et la population de là n'est pas prête pour cette nouvelle-là. Elle est plutôt inquiète quant à leur sécurité parce qu'elle dit que plusieurs groupes armés sont encore opérationnels en ce lieu. Qu'est-ce que vous donnez comme réponse pour cette population-là? Merci.
Colonel, quelques éléments d'information d'abord sur le lac Kivu où les pêcheurs congolais sont interpellés, semble-t-il, et puis sur Kachébéré.
Au niveau de la force, merci Charles pour cette question. Au niveau du lac Kivu, comme vous le savez, la force est présente. Elle est présente, elle mène des patrouilles sur le lac Kivu. Maintenant, concernant probablement les démarches qui doivent être effectuées dans le cadre de bons offices ou en tout cas dans le cadre de contacts à mettre en œuvre avec les autorités congolaises, je pense que ceci ne relève pas de la force. Peut-être que ce sont d'abord les autorités congolaises qui sont interpellées sur ce point-là et peut-être aussi que la MONUSCO pourrait donner un coup de main pour faire avancer ces pourparlers-là afin que de tels incidents ne se reproduisent pas ou alors que ces incidents trouvent des solutions apaisées chaque fois que ces pêcheurs seront arrêtés. Parce qu'il faut aussi convenir que je n'ai pas d'éléments entre les mains pour savoir si ces pêcheurs ont trépassé les limites frontalières sur le lac Kivu avec le Rwanda. Maintenant, concernant Kachébéré, votre question n'est pas très précise parce que vous semblez me dire que le déploiement de les éléments de la brigade d'intervention à Pinga pose problème aux populations. C'est là où je ne comprends pas parce que je pense que ce déploiement entre dans le cadre d'un plan de sécurisation globale qui est initié aussi bien par la force de la MONUSCO que par les FRDC pour justement sécuriser les populations. N'oubliez pas que nous étions à Pinga il y a peu et que c'est nous qui avions lancé des opérations contre Tcheka d'abord pour le déloger de Pinga. Parce que pendant près d'une année, des combats récurrents avaient été observés entre l'APCLS, l'Alliance pour un Congo libre et souverain de janvier, coalisée avec certains groupes Nyatura et FDLR, contre les éléments NDC Tcheka coalisés avec les Raia Mutomboki. Donc ces opérations avaient permis de sécuriser Pinga et aujourd'hui ce déploiement additionnel de troupes vient juste renforcer un dispositif sécuritaire qui est déjà établi et qui continue de fonctionner efficacement pour le bien des populations civiles.
Je reviendrai sur la première partie de la question, notamment sur cette délimitation des frontières au niveau du lac Kivu. Vous savez déjà que au niveau de la frontière terrestre, il y a pas mal d'imbroglio et une commission mixte de délimitation des frontières Rwanda-RDC a été convoquée et devrait se tenir dans les prochaines semaines, je crois. Donc si la frontière terrestre est difficile à délimiter, la frontière fluviale ou lacustre est encore beaucoup plus difficile à délimiter, mais je crois que dans le cadre de cette commission mixte, les choses devraient avoir une réponse. Nous restons toujours à Goma pour une deuxième question, je crois.
Oui, Charles, avant la deuxième question, juste une précision par rapport à la question de Norbert. C'était la question de redéploiement des éléments des FIB de Kashebere Verpinga qui pose problème pour la population. En fait, c'est ça sa question. Donc, il y a des craintes au niveau des populations par rapport au départ des éléments de la FIB de Kashebere Verpinga.
Est-ce que l'ensemble des éléments de la brigade d'intervention a été redéployé ailleurs?
Une partie des éléments de la brigade d'intervention, du contingent sud-africain de la brigade d'intervention, a été effectivement redéployé pour assurer une présence beaucoup plus effective dans la zone de Pinga. Mais n'oubliez pas que depuis le 2 juillet, nous avons lancé des opérations en parfaite coopération avec les FRDC, ce qui nous a valu aujourd'hui le contrôle de plus de 20 villages qui sont situés aussi bien dans le groupement de Ihunga que de Utanda. Donc ce qui veut dire tout simplement que la présence des FRDC dans cette zone-là, parce que Tcheka est aujourd'hui avec son état-major en débandade vers le nord, donc ce qui veut dire tout simplement que la situation est sous contrôle des FRDC et il est tout à fait logique que nous puissions basculer nos forces de l'autre côté où le besoin se fait beaucoup plus sentir pour assurer la sécurité des populations civiles. Mais nous ne perdons pas de vue tous ces éléments-là et comme vous le savez, la RDC est un grand pays aux dimensions géographiques énormes et il faut pouvoir en temps réel aller là où le besoin se fait sentir, surtout que nous avons des outils additionnels qui nous permettent de savoir où se trouve la menace, notamment les aéronefs sans pilote qui nous sont d'un grand concours.
Goma toujours.
Ok, donc la parole est à Steve de Chine Nouvelle.
Merci, j'ai deux petites questions pour la réponse. La première, ça concerne, vous avez parlé de la situation sécuritaire dans la province du Sud Kivu. Je viens de Sangué où nous avons remarqué, on a ramassé des tracts jetés par des hommes armés qui ont promis de venir massacrer la population de Sangué plus que ce qui s'est passé à Mutarule. Quelle est déjà votre précaution que vous avez prise comme MONUSCO au lieu de regretter comme l'a fait le chef de la MONUSCO, Martin Kobler? Et la seconde question, nous avons appris par d'autres voix qui la MONUSCO a jeté des tracts dans les zones sous contrôle des ADF Nalu. Qu'est-ce qui a été écrit sur ces tracts? Pourquoi vous avez jeté? Vous attendez à quoi? Merci.
Oui, merci. Donc je commence par votre première préoccupation qui est relative à Sangué. N'oubliez pas qu'entre Sangué et Mutarule, il y a juste 9 kilomètres. Et je ne vois pas en quoi est-ce que ça pourrait être dérangeant que nous présentions nos excuses face à des manquements que nous avons reconnus et aussi face à notre détermination dans la mise en œuvre de mesures idoines pour que de tels incidents ne se passent pas. Donc, effectivement, à Sangué, nous avons une base opérationnelle, donc nous sommes présents à Sangué. À Mutarule, depuis ces incidents-là, nous sommes présents en nombre suffisant parce que nous avons établi une base opérationnelle pour prendre en compte toutes les menaces sécuritaires qui pourraient venir de ce coin-là. Mais vous savez, le problème de Mutarule ou de Sangué est un problème intercommunautaire d'abord. Et il faut louer les efforts consécutifs qui sont faits aussi bien par les autorités gouvernementales, les autorités provinciales, les leaders religieux, la MONUSCO, pour essayer d'apaiser les tensions ancestrales, si je peux dire, qui existent entre les Bafuliro et les Banyamulenge. Donc, récemment, nous suivons cette situation de très près. Et très récemment aussi, nous avons appris la réunion de beaucoup de chefs Maïmaï dans la région de Sangué, effectivement, dans le but de perpétrer éventuellement des massacres contre les populations de cette localité, Banyamulenge et Barundi. Donc, notre engagement est sans faille sur ce dossier-là, et aussi bien les sections civiles substantives de la MONUSCO que la force sont toutes engagées avec les autorités pour essayer d'amener une accalmie durable dans cette partie du pays.
Je crois qu'il y avait un deuxième volet à la question.
Oui, concernant les tracts
jetés par la MONUSCO.
Oui,
il s'agit de tracts.
C'est une opération banale. C'est une opération routinière qui entre dans le cadre de nos activités quotidiennes avec les FRDC. Et cette fois-ci, ça a pris beaucoup plus d'ampleur. Parce que le but de cette opération de sensibilisation, c'est, encore une fois, de réitérer nos appels à l'endroit des rebelles de l'ADF, particulièrement, parce que c'était la zone de Beni qui était ciblée, particulièrement la région de Abia, Kouélé et vers la rivière Osso. Donc, nous le faisons tout le temps avec les FRDC, que ce soit contre le FRPI en province orientale, contre les FDLR il y a très peu de temps. Et donc, nous poursuivons ces campagnes parce que l'objectif initial, c'est d'arriver à une reddition pacifique volontaire au lieu de d'imposer par la force, parce que nous en avons le mandat de toutes les façons, d'imposer par la force cette reddition-là. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons mené ces activités en étroite collaboration avec les FRDC. Les messages sont clairs et ils appellent tous ces combattants à se rendre, mais aussi et surtout à cause de ce cas particulier qu'est Abia. Parce que n'oubliez pas que jusqu'à présent, des otages sont encore entre les mains de ces rebelles ougandais. Certes, il faut se féliciter de la libération de beaucoup d'otages, ou en tout cas de certains otages qui ont réussi à s'échapper, mais encore un nombre considérable d'otages restent entre les mains de ces rebelles ougandais, et de crainte que ces otages ne servent de boucliers humains à ces gens-là, parce qu'aujourd'hui ils sont cantonnés dans une poche vers la frontière ougandaise, grâce au succès répété de la force de forces armées de la République démocratique du Congo, soutenue par la MONUSCO. Donc c'est une opération banale, routinière, de sensibilisation, et nous n'arrêterons pas de réitérer nos appels pour que ces gens déposent les armes.
Kinshasa, question à gauche.
Pas de main ?
Si.
Bon, à droite alors.
Les gens de gauche sont un peu plus timides. Bon, voilà, plein de mains. Présentez-vous et votre question.
Merci. Mariam Boya pour Télé7. Ma question s'adresse au lieutenant-colonel Prosper Bass. La société civile de la province orientale s'oppose à la relocalisation du FDLR. Est-ce que la MONUSCO a-t-elle pris des dispositions quant à ce qui peut arriver avec cette opposition de tout le monde en province orientale de la relocalisation du FDLR? Merci.
Je vais prendre cette question. Je crois que nous l'avons répété ici à plusieurs reprises. La MONUSCO assure le soutien logistique de cette opération et nous allons appuyer le gouvernement dans sa démarche. Quel que soit le lieu de cette relocalisation, nous, MONUSCO, nous apportons le soutien logistique à cet effet et nous avons, comme vous, entendu les déclarations faites à ce propos du ministre porte-parole du gouvernement, ministre des médias, et nous allons donc nous en tenir à notre rôle, strictement à ce rôle de soutien logistique. Voilà ce qu'on peut dire à cet effet. Deuxième question, on va peut-être aller au fond. Il y a beaucoup de mains ici, mais on va revenir, parce qu'à gauche, il n'y a pas de questions, c'est vrai. Donc, oui, monsieur, présentez-vous le nom de votre organe.
Hakim Kombo, Seka TV. Colonel Prosper Bass, vous aviez dit que l'opération des tracts que la MONUSCO est en train de jeter dans les bastions où les ADF sont encore localisés, c'est juste pour leur pousser à une reddition volontaire, éviter l'épreuve des forces. Est-ce qu'à ce stade, on peut savoir, parce que les ADF utilisent, servent de ces otages comme boucliers humains pour qu'ils ne soient pas attaqués, quelle est alors la prochaine piste, la prochaine solution? Vous allez, s'ils vont continuer à résister, qu'est-ce que vous proposez? Vous allez les abandonner avec les otages ou bien la force sera mise en exécution pour en fait les contraindre comme ça a été avec les M23?
Oui, merci. D'abord, je vais préciser que ce n'est pas la force de la MONUSCO qui procède à ce largage de tracts en direction des ADF. C'est la force de la MONUSCO avec les FRDC qui conjointement mènent ces opérations-là. Je veux le souligner parce que il est important que les gens sachent qu'on travaille en étroite collaboration et de manière très fructueuse avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour non seulement protéger les populations civiles, mais aussi pour restaurer l'autorité de l'État. Maintenant, vous conviendrez avec moi que nous ne pouvons pas non plus mettre sur la place publique toutes les stratégies qui vont être mises en œuvre pour arriver à neutraliser définitivement ces rebelles ougandais au moindre coût. Ça veut dire que et éviter des dégâts collatéraux qui pourraient affecter ces otages qui sont entre leurs mains. Mais une chose est sûre, la concertation se poursuit avec les FRDC. Et la semaine dernière, je vous ai donné un peu tout ce qui se fait entre le général Bayou, qui est actuellement acting force commander, et le général Bahouma sur le terrain. Des réunions de concertation se poursuivent et se tiennent de manière quasiment quotidienne pour justement trouver la bonne formule et le bon modus operandi qui permettra de libérer ces gens-là et aussi d'avoir la reddition des éléments de l'ADF.
Question ? Ensuite, on va aller à gauche.
Merci, c'est Venant vous dire ça pour la RTNC. Ma première question s'adresse au colonel. Mon colonel, est-ce que c'est digne de la part de la MONUSCO de jeter des crates? Monsieur Charles, l'une des missions, c'est point de vous le rappeler, des Nations Unies, c'est de convaincre les nations ou les États à vivre en paix. Il sait depuis un certain moment, ce n'est pas un secret pour qui que ce soit, notre pays s'active, les états-majors de notre pays s'activent à ce qu'il y ait révision de la Constitution. Les évêques, nos pères, les très respectés évêques, s'y opposent catégoriquement. Les messages, la dernière adresse d'Obama s'y oppose devant les entrepreneurs. Vous, au niveau de la MONUSCO, parce que vous avez la mission, vous, Nations Unies, d'aider ou de convaincre les États à vivre en paix. Quelle analyse en faites-vous? Parce que notre expérience personnelle nous rappelle que lorsqu'il y a de telles tensions, cela laisse présager des situations ou entraves à la paix. À vous la parole.
Colonel, tout d'abord, la première partie de votre question.
Oui, merci. En fait, si je dois répondre de manière directe à votre question, est-il digne pour la force de la MONUSCO de lancer des tracts? Mais je pense plutôt que notre attitude aurait été indigne si nous ne faisions rien. D'abord, il faut préciser ces histoires de tracts, parce que c'est pas des tracts comme ça qui sont lancés. Premièrement, dans l'organigramme de la force de la MONUSCO, nous avons une structure qui est chargée des opérations d'information. Ces opérations d'information visent tout simplement à atteindre justement la psychologie des éléments armés pour les pousser à la reddition. Donc c'est dans ce cadre-là. Et ces opérations de sensibilisation sont tout à fait importantes. Elles sont d'une extrême importance parce que nous avons recueilli combien de redditions volontaires justement par le fait de ces opérations d'information. C'est à ce titre que je précisais que ce sont des opérations routinières parce que à chaque semaine nous faisons le point des redditions. Mais messieurs, ces redditions ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le fruit d'efforts conjugués, aussi bien de la MONUSCO, de la section des D3R, d'autres agences, d'autres acteurs, de leaders locaux, même la mise en œuvre de certaines radios communautaires, de la mise en œuvre de radios comme Radio Okapi, qui sont des outils extrêmement importants qui nous permettent d'inciter ces gens-là à la reddition. Et les efforts sont là. L'option militaire n'est pas la seule option pour obtenir les redditions. Oui, c'est très digne ce que la MONUSCO fait avec les FRDC. Encore une fois, ce n'est pas seulement la MONUSCO qui est dans cette opération et ce n'est pas une opération nouvelle. Elle se fait depuis très 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 longtemps et dans toutes les zones où nous sommes présents avec les FRDC.
Oui, et puis il faut préciser sans être militaire que dans l'histoire des armées dans le monde, c'est une stratégie militaire qui a toujours été utilisée par toutes les armées du monde. Ceux qui en ont les moyens, en tout cas, depuis la Seconde Guerre mondiale ou même avant, les jets de messages à l'endroit des populations, même à l'endroit de l'adversaire, se fait et c'est une opération routinière, comme le dit le colonel. Et je crois que c'est une stratégie pour épargner des vies civiles. Dans ce cas précis, je crois qu'il faut mesurer donc à sa juste portée cette action des forces conjointes FARDC-MONUSCO. Quant à votre deuxième question, il faut dire que la MONUSCO, bien sûr, s'inscrit dans le juste mandat que lui donnent les différentes résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et le représentant spécial du secrétaire général, M. Martin Kobler, a déjà engagé ce que vous savez être les bons offices entre les différentes parties, entre les différents leaders politiques de ce pays, et appuyé d'ailleurs en cela par l'ensemble des sections de la MONUSCO, notamment la section des affaires politiques de la MONUSCO. Et ces différentes missions de bons offices vont se continuer à la demande, bien sûr, des différentes parties politiques ici en RDC, mais aussi, comme je dis, cela s'inscrit en droite ligne des missions confiées à nous par le Conseil de sécurité. Nous espérons que ces différentes concertations menées à ce niveau pourront amener la classe politique à s'entendre autour d'un même projet, d'une même vision politique pour le devenir, le développement de ce pays. C'est ce que nous pouvons dire et nous allons continuer en tout cas cet exercice pendant le temps qu'il faudra. Nous allons prendre une question à gauche ici avant de repartir à Goma. On a le micro. Oui. Passez le micro, s'il vous plaît. Présentez-vous, donnez-nous le nom de votre organe.
Oui, Donatien Kambou pour Congo Santé. Bon, nous avons une préoccupation, celle de savoir comment se porte, quelle est la situation sanitaire des otages et des personnes qui vivent, des populations qui vivent dans les zones en ébullition, donc des zones en trouble. Quelles sont leurs conditions sanitaires, notamment où l'électricité et la vie qui est peut-être aujourd'hui vraiment entrée dans une très 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 mauvaise condition sanitaire.
Il faudrait qu'on puisse envoyer une équipe visiter ces otages et revenir nous faire le point. Je ne crois pas que ni la force qui combat ces ADF dans la zone avec aux côtés des FRDC, ni les FRDC, on ne peut vous faire un point sur l'état de santé des otages. Nous espérons qu'ils se portent bien et nous souhaitons vraiment qu'ils se portent bien. Et c'est pour cela que cette opération de jet, de tract ou de message, comme on a dit tout à l'heure, est importante parce qu'elle vise essentiellement à vraiment préserver la vie de ces otages. C'est parce que nous tenons à préserver la vie de ces otages que nous envoyons en conjointement avec les FRDC que nous menons cette opération. Il est important que les ADF comprennent qu'il est l'heure pour eux de se rendre, qu'ils déposent les armes, qu'ils rentrent dans les camps de DDR que nous avons à la disposition de tous les groupes armés à travers l'est du pays. Ces camps les attendent et afin qu'on puisse donc sauver ces personnes-là et notamment les populations environnantes. Colonel, c'est bon ?
C'est bon.
Nous allons partir à Goma pour deux autres questions. Goma, s'il vous plaît, c'est à vous.
Alors, peut-être que vous pouvez présenter vous-même, Vincent De Paul.
Je suis Vincent De Paul du journal Les Modérateurs. Depuis le 11 juin 2014, quand il y a eu échange de tirs entre les FARDC et la Rwanda des différentes forces au niveau des Kanyesha dans le Nyiragongo, un activiste congolais, activiste des droits de l'homme congolais, et un officier congolais des FARDC serait encore détenu dans un des amigos de la province de l'ouest du Rwanda. Je voudrais savoir si la MONUSCO ne peut-elle pas user de son influence pour que ses compatriotes puissent recouvrer leur liberté.
Bon, vous avez dit serait, hein, donc c'est vraiment le conditionnel que vous avez employé. Je crois que même au niveau du Nord Kivu, on n'a pas la certitude de qu'est-ce qu'ils sont devenus. Dans un premier temps, on a même appris qu'ils seraient, je dis bien seraient aussi au conditionnel, morts, mais on n'a aucune vérification de l'identité. Où est-ce qu'ils sont passés? Je suis sûr que tant au niveau de la force que des FRDC, si nous avons des informations, nous les partagerons avec vous, mais gardons ça toujours au conditionnel, mais à l'heure actuelle, je ne pense pas que au côté MONUSCO, nous ayons quelques informations que ce soit dessus. Goma, d'autres questions peut-être?
Albert Toulinabo.
Oui, merci madame. Mon colonel, moi je m'appelle Albert Toulinabo du journal Le Peuple Souverain. Ni la MONUSCO ni le FARDC n'ont jamais, jusqu'à ce jour, libéré aucun otage, Mais curieusement, quelques otages courageux, parmi les femmes, hommes et enfants, sont arrivés à s'échapper. Pourquoi alors les deux forces onusiennes et congolaises sont-ils incapables, permettez-moi les termes, de libérer ne fût-ce qu'un otage?
Colonel,
oui. D'abord,
le colonel Amouli avait fait un point.
Oui, d'abord, je ne partage pas votre assertion quand vous dites que aucun otage n'a été libéré. Vous savez, ces otages, pour que ces otages puissent s'échapper, d'abord, il faut se féliciter du courage que ces otages ont exprimé en fuyant des mains de leur des gens qui les maintenaient sous captivité ceci a été possible grâce justement à la pression militaire qui a été déclenchée par les FRDC soutenue par la MONUSCO contre ces rebelles ougandais, parce que sinon ceci ne serait pas possible. Deuxièmement, je pense qu'il faut saluer et reconnaître les efforts qui sont faits par les troupes congolaises, qui ont payé un lourd tribut pour arriver à démanteler tous ces bastions des ADF dans les territoires de Béni, dans le Grand Nord, dans le Rwenzori, qui se caractérisent par un terrain extrêmement difficile, une végétation extrêmement touffue, et où il fallait avancer avec des machettes et atteindre les objectifs qui étaient initialement fixés. C'est vrai, la critique, nous l'acceptons, nous l'encourageons, entre autres, mais je pense que il faut aussi restituer la véracité des faits dans toute leur quintessence, parce que si vous dites que nous ne faisons rien, ni les FRDC, ni la MONUSCO, je pense que ceci n'est pas très exact, parce que nous faisons le point chaque semaine ici de ce qui se fait. Et respecter aussi un peu tous ces soldats congolais qui ont laissé leur vie justement pour arriver à la libération ou en tout cas à l'escapade de ces otages-là qui ont encore une fois démontré qu'ils regorgeaient de courage parce que le traumatisme d'une captivité n'a pas joué sur eux. Ils ont trouvé le moyen de pouvoir s'enfuir.
Nous restons toujours. Où se trouve le micro? On va prendre une question là. Oui, allez-y, présentez-vous et ensuite on repartira à Goma.
Gianni Kabongo, Univers Plus Média. En 1994, la communauté internationale avait imposé la réouverture des frontières de l'Est de la RDC en faveur des Interahamwes. Aujourd'hui, peut-on parler d'une imposition de la communauté internationale à travers la MONUSCO au sujet de la relocalisation des FLR dans certaines provinces de la RDC, lorsqu'on sait que le gouvernement avait déjà dit non à la présence des FLR en RDC Congo?
Je vous renverrai à la déclaration de M. Lambert Mende. Qu'est-ce qu'il a dit? Et comme on l'a dit au début, nous on s'en tient au soutien logistique de cette opération. C'est tout. Une autre question sur la gauche. Présentez-vous, le nom de votre organe.
Lorette Mandal, Africa Télévision. Ma question s'adresse à M. Charles Bambara. Nous savons tous que la MONUSCO appuie le processus électoral en RDC. La MONUSCO soutient la CENI et nous savons que votre appui est matériel. Mais moi, je me pose la question de savoir mais comment vous soutenez la CENI au moment où la CENI a publié un calendrier partiel. Vous avez besoin de connaître un calendrier global pour soutenir la CENI. Mais jusque-là, la MONUSCO ne se prononce pas comme la communauté internationale qui a exigé un calendrier global à la CENI.
Mais la MONUSCO, par la voix de Martin Kobler, s'est prononcée à maintes reprises. Nous encourageons le dialogue entre les différents partis politiques et nous espérons effectivement qu'il y aura entente, qu'il y aura au-delà des bons offices engagés par le bureau de M. Martin Kobler, que cela débouchera sur une sorte de consensus autour de tous ces points. Et c'est vrai que la communauté internationale demande un mandat. Nous sommes sur le terrain. Nous avons, de façon très concrète, envoyé une équipe de la MONUSCO au sein même de la CENI. Cette équipe qui travaille jour et nuit pour apporter de façon très concrète le soutien de la MONUSCO aux différentes opérations, notamment lors, par exemple, des élections partielles qui se sont récemment déroulées. La MONUSCO a effectué le transport du personnel électoral, par exemple, sur place. Les membres de l'Assemblée plénière de la CENI également ont été transférés. Le matériel a été transféré. Tout cela, il ne faut pas minimiser tout cet appui de la MONUSCO qui est sensible. Et nous allons continuer à le faire. C'est vrai que c'est là que le début du processus, c'est vrai que la discussion, la réflexion reste engagée et nous souhaitons que cela puisse déboucher vraiment sur un consensus au niveau national. Merci. Peut-être nous allons prendre la direction de Goma. Il nous reste à peu près 8 minutes. Goma, peut-être deux questions.
Alors, on a Papi Okito et après Alain Ondino.
Oui, moi c'est Okito Papi du journal Écho d'Opinion. La première, je la pose à M. Charles. C'est juste savoir, M. Charles, la MONUSCO a pris au moins l'engagement, celle de faire au moins quelques kilomètres de route à Goma. Mais jusqu'à aujourd'hui, M. Charles, les travaux sont totalement aux arrêts. Alors, on n'arrive pas à comprendre, M. Charles, pourquoi est-ce que pouvons-nous dire au moins à la population si la MONUSCO ne va pas construire ces kilomètres de route, surtout la route de l'aéroport qui est prioritaire. Mais, à mon colonel, bientôt, c'est la fin du mandat de la brigade. Croyez-vous qu'à ce stade, la brigade a fait bien son travail?
Bon, merci.
Comment pouvez-vous évaluer, le travail qu'a fait la brigade sur terrain?
Voilà, merci pour la première partie de votre question. J'étais récemment à Goma, comme vous le savez. J'ai rencontré les officiels de la MONUSCO sur place. Je leur ai posé la question que vous me posez justement. La MONUSCO reste engagée et à faire les routes promises. Il y a juste les contrats des concessionnaires ont été suspendus dû à des difficultés techniques de la part de ces concessionnaires. Donc d'autres concessionnaires pour engager les travaux sont en train en ce moment d'être trouvés. Et dès que ces concessionnaires sont trouvés, le contrat va être reconduit et les routes promises vont être faites en totalité. Et c'est vraiment une suspension due à des raisons techniques, disons, mais la MONUSCO reste engagée à finaliser ces opérations. Merci.
Merci. Juste pour préciser que la brigade d'intervention qui avait été créée par la résolution 2098, qui avait un délai de vie d'un an, vient juste d'entamer la deuxième phase de son mandat au sein de la MONUSCO. Donc, la brigade d'intervention n'est pas au bout de son mandat. Elle vient juste pour la deuxième rotation d'entamer le processus. Mais pour revenir un peu à la quintessence de votre question, que fait la MONUSCO? Je pense que vous qui êtes... que fait la brigade d'intervention? Je pense que vous qui êtes dans la province du Nord Kivu, vous êtes beaucoup plus à même de décrire les activités quotidiennes de la brigade d'intervention. Et je pense que au cours de toutes nos rencontres hebdomadaires aussi, nous faisons le point de ce que la brigade d'intervention fait de manière quotidienne aux côtés des FRDC. Notamment, nous avons parlé là du contingent sud-africain qui vient d'être redéployé de Kachébéré vers Pinga et qui a appuyé toutes ces actions-là sur l'axe Kachébéré-Mpofi vers Walikale. La brigade d'intervention ne fait pas de bruit, elle travaille.
Merci, colonel. Il nous reste 3-4 minutes. Nous allons prendre une question à Kinshasa.
Il y a un journaliste ici.
Bon, ben, à Goma, oui, alors. Restons à Goma.
C'est Alain Wandimoy, Tif à Grand Lac. Ma question est plutôt humanitaire. On a tous été alertés par la radio Okapi au sujet des déplacés dans les sites de Lubero. Quid de la situation de ces déplacés aujourd'hui, puisqu'on en a parlé plus et... totalement en silence radio.
Est-ce qu'on a un représentant de l'humanitaire, Claude? Quelques éléments de réponse? Les déplacés de Lubero? Venez au micro, s'il vous plaît.
Merci de la question. Mais je vous demanderai de prendre langue avec Ocha, qui est à Goma, et Ocha va vous donner tous les éléments. Merci.
Merci, merci. Une dernière question. Je rappelle que nous avons notre collègue de l'équipe de développement. Hein. Est-ce qu'il y a une question sur les questions de développement ici? Hein. Il n'y a pas de question? Si? Développement, oui. On va prendre une question de développement pour finir en beauté. C'est pas qu'on a beaucoup parlé du volet militaire, etc. Mais bon, ce serait bien aussi. C'est une conférence de presse des Nations Unies.
Merci pour la parole, c'est Symphorien Katumba, pour le compte de l'explorateur. J'ai une préoccupation d'observation, Madame Geneviève. L'atelier du vendredi 27 juin 2014 à l'hôtel Sultani, concernant l'échange autour de votre expérience, a connu un grand succès et avec brio, moyennant des recommandations riches et hautes en couleurs. Mais l'observation de notre inquiétude figure à propos des couvertures médiatiques, dont le portant des fois exige les invitations aux journalistes. Y a-t-il moyen d'informer les organisateurs de bien prévenir le protocole d'accueil concernant l'accueil libre, l'accès libre auprès des journalistes? Je vous remercie.
Reprenez la question, j'ai pas juste la question. La question c'est quoi?
C'est suite à l'atelier qui s'est déroulé, à l'hôtel Sultani. Nous, les journalistes de la MONUSCO, nous avons été, mais on nous demandait l'accès libre au moyen des invitations. On ne parvenait pas à comprendre est-ce que finalement on avait accès ou pas, parce qu'il y avait des fois où on nous refoulait. C'est là où je voulais avoir des précisions. Est-ce qu'il y a des fois que nous ayons des invitations officielles à partir d'ici ou soit à partir là où nous...
Ben, je crois qu'on peut régler cette question en dehors de... Venez nous voir après cette conférence de presse, merci. Nous allons en parler. Merci. Peut-être que tu voulais ajouter quelque chose.
Non, je ne fais rien. Je voulais simplement dire, comme on en a déjà parlé précédemment, que pour chaque activité, il y a un nombre de journalistes invités. À ma connaissance, on ne refoule pas les journalistes qui ne sont pas sur les listes de journalistes invités. La seule chose, vous m'avez déjà relaté cet incident. Moi, personnellement, j'ai vérifié, j'ai pas eu connaissance de ce que vous m'avez raconté, mais il est clair que les journalistes sont invités à participer, mais dans la mesure où ils sont inscrits et dûment présents, c'est plus facile pour nous de les reconnaître en tant que journalistes, parce que nous avons aussi beaucoup de personnes qui se présentent comme journalistes et qui en fait ne proviennent d'aucun média. Donc nous devons établir un certain fil pour le comprendre.
Voilà, merci bien madame, et merci à tous les journalistes à Goma et à Kinshasa d'avoir participé à cette conférence de presse. Bientôt 12h heure de Kinshasa. Merci, et l'antenne est à Radio Okapi.
Le débat politique, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent.